issu des frontières. Pour la nage, pour le communisme, sera l'humeur à le brasier, qui consumera le vieux monde. Sera l'humeur à le brasier, qui consumera le vieux monde. Sera l'humeur à le brasier, qui consumera le vieux monde.
Brasero, brassage radio. Aujourd'hui, on laisse de la place à celles et ceux qui luttent contre les frontières et à ceux et celles qui les subissent. D'abord, on va écouter Chronique amère qui revient sur l'action d'Alarme Faune, une sorte de legal team de la mer qui apporte son aide aux personnes en détresse lors de leur tentative de passage vers l'Europe. Eh oui, se déplacer vers l'Europe est devenu terriblement dangereux pour tout un tas de gens qui n'y sont pas autorisés. Dans notre monde ultra connecté, de la vitesse et de la quasi-ubiquité, il faut des années pour venir d'Afrique de l'Ouest, du Tchad ou d'Afghanistan. Et même si vous habitez en Algérie, au Maroc, en Syrie. À moins de 2 heures d'avion de Toulouse, parfois, il faut prendre des risques incroyables pour venir en bateau. Ensuite, vous entendrez la dernière émission des Voix en cage. Les Voix en cage, ce sont celles des personnes qui ont été enfermées dans les centres de rétention administrative. Ce sont des étrangers et étrangères qui nous racontent leur histoire, celles qui les ont fait arriver dans ces prisons destinées à les garder enfermées jusqu'à ce que les autorités les renvoient de force, hors de France. Ils et elles racontent aussi leurs conditions de vie, ou plutôt de survie, dans les CRA, les centres de rétention administratifs. Et oui, une fois arrivés en Europe, le cauchemar continue pour ceux et celles qui n'ont pas les bons papiers. Voilà, un brasero pour cramer les frontières. Bonne écoute.
De l'air, brasero frontière. De l'air, brasero frontière.
De l'air, brasero frontière.
Alarm phone, hello.
Hello, my friend.
This is what the man alarm phone.
What's the man alarm phone?
Hello, my friend. This is alarm phone.
How are you, my friend?
I hear you.
Can you hear me?
Hello, my friend.
Okay, can you give me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique amère.
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm phone.
Freedom, I don't meet them. Where's your freedom?
Can you give me your GPS position?
Okay, I call you back.
What kind of boat
what
are you on?
What do you see around you?
Can you give me your GPS position?
How many are you
position?
On the boat?
I hear you.
Can you hear me?
I'm Zian. I'm from Shimashakir.
Okay, I call you back.
I will call
Let's
you back.
Let's try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2020, 1760 personnes sont mortes en traversant.
147 personnes par an.
34 personnes par semaine.
Près de 5 personnes par jour.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Et rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser, rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première édition de Chronique amère. Alors dans cette chronique mensuelle, on parle depuis Alarm Phone, c'est-à-dire que nous toutes et tous autour du micro sommes membres du réseau activiste Alarm Phone. Et pour vous donner un aperçu de ce que c'est, on va utiliser l'image d'une amie de Leipzig qui dit que Alarm Phone, c'est une sorte de legal team de la mer. Alors une legal team, équipe légale, ce sont des gens qui s'organisent pour que dans des situations avec des enjeux de répression, par exemple des manifs, des grèves, des occupations, un maximum de personnes puissent connaître leurs droits et se défendre, si elles sont arrêtées, emmenées par la police par exemple. Alors si des personnes traversent la Méditerranée et sont en détresse, elles peuvent appeler Alarm Phone. Et on travaille alors ensemble à ce qu'elles soient secourues, conformément aux droits maritimes, et surtout soient débarquées dans un port sûr, c'est-à-dire dans un endroit dans lequel elles seront en sécurité. Le fait d'appeler Alarm Phone, c'est une question de communauté, d'information et de pratique. Par exemple, si nous sommes en lien avec de nombreuses personnes subsahariennes qui traversent depuis la Libye vers Malte ou vers l'Italie, nous sommes très peu sollicités par des Libyens ou des Libyennes qui font le même trajet, mais s'organisent avec d'autres ressources et fonctionnent avec d'autres réseaux. Ce qui fait que nous avons à la fois un aperçu assez complexe et vaste de la frontière méditerranéenne et néanmoins très partiel. Nous tenons une permanence téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 6 ans. Et nous partageons un calendrier, des outils, des savoirs, un réseau, des rencontres, une langue commune, enfin plein de langues communes, mais notamment l'anglais d'Alarmphone qui est plein d'acronymes techniques, et une conviction très simple, les frontières servent des politiques racistes et coloniales menées par les États européens en Afrique et au Moyen-Orient depuis des siècles. Ainsi, nous sommes pour l'abolition des visas, pour la liberté de circuler et de s'installer de chacun et de chacune, contre l'externalisation des frontières de l'Europe, pour leur destruction pure et simple. Nous sommes environ 200 activistes, répartis dans une quinzaine de pays au nord et au sud de la Méditerranée. Certaines d'entre nous vivent à la campagne et d'autres dans des grandes mégalopoles. Certains sont blancs, d'autres pas. Certaines ont des papiers européens. Certaines ont traversé, certains voudraient, certains pas du tout. Certains sont queer, beaucoup sont hétérosexuels et quelques-uns ont des enfants. Certaines ont moins de 30 ans, d'autres plus de 60. Certaines travaillent pour gagner leur vie et d'autres sont activistes professionnels. Certaines détestent les smartphones, mais toutes ont appris à en utiliser un pour Alarmphone. Certaines vivent près de la mer et d'autres loin dans les terres. Certains s'inscrivent sur le calendrier longtemps à l'avance, quand d'autres se décident à la dernière minute. Certaines parlent arabe, d'autres turc, d'autres italien, d'autres français, d'autres allemand, d'autres grec. Certaines sont là depuis 6 ans, d'autres arrivent tout juste. Certains beaucoup de choses, et d'autres plus encore.
Concrètement, participer à l'Alarmphone, c'est appeler des gardes-côtes pour soutenir les appels de détresse des bateaux, parce qu'en fait, trop souvent, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup insister pour que des secours soient engagés. Et puis faire pression par des tweets, des recherches, des articles. Participer à l'Alarmphone, c'est aussi faire du support technique. Expliquer aux gens comment envoyer leur position GPS depuis des téléphones satellites, comment se comporter quand les secours arrivent, comment redémarrer un moteur, comment soutenir une femme qui accouche, etc. Participer à l'Alarmphone, c'est aussi documenter les pratiques illégales de refoulement, les violences, la non-assistance des autorités dites compétentes en matière de sauvetage, les naufrages, les bateaux perdus, les conséquences meurtrières des frontières extérieures de l'Europe. Et bien sûr, c'est répondre à des proches, des amis, des frangines, des cousins, des parents qui cherchent une des leurs, partie tel jour, depuis telle plage, de tel pays, et dont personne n'a de nouvelles depuis.
Montassir Adam Ahmed,
Madine Madi Moussa,
Ahmed Idriss Amer Tagal,
Abou Bakar Ibrahim,
Edouard Bassit Adam
Jouma, Ahmad Dafala Jouma,
Nordine Salah,
Abou Bakar,
Mohamed Tal,
avoir couvert sa gueule,
aimé sa grand-mère,
Badradine Aïssa Mohamed,
jouer aux cartes pendant des heures,
Amir Abdul Rahman Ahmad Omar,
être trop ponctuel,
Ahmed Abakar,
Nasr Ladine, Adan Yaya,
Mohamed, chanter Ahmed le matin,
Ousmane Babiker, Ousmane
Mustafa Carbino,
organiser sa
Alfadel Alumda,
Rachid Moussa, Moussa
Edouard
Rochard,
Mohamed
Chouette,
Abakar,
Samir Aldoma,
Alash,
Adam Ibrahim,
Ibrahim
Issa avoir été battu, Wiz Yassine Abou,
Abdallah Sharif Agar Jogle.
Alarmphone, c'est aussi rencontrer beaucoup de gens. Des gens qui ont été confrontés à un naufrage et s'organisent, se défendent, cherchent des informations pour savoir ce qui s'est passé réellement pour telle ou telle embarcation. Des gens qui racontent ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée. Et on organise des événements ensemble. C'est ce qu'on appelle les commémorations. Avec des familles, avec des proches, avec des activistes, on choisit des dates, chaque année différentes, pour organiser des actions. Parce que les traversées de la Turquie à la Grèce n'ont rien à voir avec des traversées de la Libye vers Malte, de la Tunisie vers l'Italie, du Maroc vers l'Espagne ou du Sahara occidental vers les Canaries. Et parce qu'il y a des naufrages tous les jours. L'année dernière, on commémorait le 6 février 2014, date à laquelle 200 personnes ont tenté d'entrer dans la ville de Ceuta, une enclave espagnole sur le territoire marocain, par la plage de Tarajal. La Guardia Civile espagnole a tiré, 15 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres ont disparu. D'autres encore sont mortes du refoulement sur le territoire marocain. Cette année, on commémore le naufrage du 9 février 2020. Cette année, la commémoration est organisée par une soixantaine de proches de personnes disparues ce jour-là qui se démènent pour obtenir des réponses. Pourquoi les autorités n'ont pas porté secours aux bateaux en détresse alors qu'elles avaient été alertées? Pourquoi refusent-elles aujourd'hui encore de donner des informations sur ce qui s'est passé ce jour-là? Pour les soutenir, Sea-Watch et Alarmphone réunissent 91 personnes à Berlin pour rendre visible, concret dans l'espace public, le corps des 91 personnes du naufrage du 9 février dernier. Pour les soutenir, on placarde les murs de nos villes. On en parle à la radio, dans cette chronique par exemple. Et aujourd'hui, à Al-Fasher au Darfour, à Tripoli en Libye, à Tunis en Tunisie, à Rome, à Palerme, à Milan en Italie, à Marseille, à Toulon, à Strasbourg, à Paris en France, à Athènes en Grèce, à Brighton, à Londres en Angleterre, à Berlin, à Hambourg, à Leipzig, à Cologne, à Francfort en Allemagne, à Zurich en Suisse, à Amsterdam aux Pays-Bas et très certainement ailleurs encore, on se souviendra du 9 février 2020 comme d'un crime politique, économique, diplomatique et raciste, commis par les États européens en toute connaissance de cause. Et on se reconnaîtra entre personnes blessées, ému en lutte contre les frontières.
Asbala Eyas,
Yacoub Ali Abdelkader,
Abdurrahman
Moustaïman
Al-Habsi,
Mobarak Salim Abdallah
Al-Habshi,
avoir soif,
Yassine Abaker Abdulrahman Mostafa,
dormir dehors,
Ghazafi Idriss Ramad,
Abakar Ibrahim Abakar,
être amoureuse,
Hamd Hamid Adam Homer,
Saïd Asp, Allah.
Ahmed Gamal,
savoir lire,
Karma Abdallah,
être inquiète de
Ibrahim,
Moubarak Aroun, Moussaïa,
pas vouloir de cette Ahmad Dafala,
Abakar Ibrahim Abakar,
Abdelhamid Abdallah,
Adama Difala Djouma,
Khaled Youssef Kafir,
Aboud
Akabar Shah,
retrouve vers sa gueule,
Khaled Youssef,
croire que ça ira mieux,
Ouzamil Abdallah, Kadir Osman,
Moubakar Ibrahim Abdallah.
Le dimanche 9 février 2020, Alarmphone reçoit un appel de détresse d'un bateau pneumatique noir avec 91 personnes à bord. Le bateau a quitté Garabouli en Libye cette même nuit. À 4h09, Alarmphone signale le cas de détresse aux gardes-côtes libyens. À 4h24, Alarmphone transmet l'information aux autorités maltaises et italiennes. Ces dernières refusent de confirmer une opération de sauvetage. À 5h35, Alarmphone parle une nouvelle fois aux personnes sur l'embarcation en détresse. C'est le dernier coup de fil. La situation à bord est très grave. Les gens paniquent, leur moteur ne fonctionne plus, de l'eau entre dans le bateau et certaines personnes sont déjà passées par-dessus bord. Leur position GPS à ce moment-là est 33 degrés et 9 minutes nord, 13 degrés et 49 minutes est. Après cet appel, le contact avec le bateau est perdu et ne sera jamais rétabli.
9 février 2020, 9h33. Après de vaines et multiples tentatives de joindre les soi-disant gardes-côtes libyens, nous avons enfin pu parler à un responsable. La Libye n'a pas encore engagé d'opération de secours parce que, nous a-t-on dit au téléphone, les centres de détention sont pleins.
Le lundi 10 février, Alarmphone appelle les gardes-côtes maltais pour avoir plus d'informations. L'officier au bout du fil révèle qu'à 10h30 ce même matin, un avion de Frontex a localisé un bateau pneumatique dégonflé. Position GPS, 33 degrés et 9 minutes nord, 13 degrés et 49 minutes est. La dernière position donnée par le bateau à l'Alarmphone. Depuis, les 91 personnes sont portées disparues. Tous les centres de coordination de sauvetage ont été alertés. Aucun n'a mené de recherche sérieuse. Ils auraient dû s'assurer que les personnes en détresse étaient recherchées et secourues, quelle que soit la localisation du bateau. Selon le droit maritime, en cas de naufrage, il incombe à ces centres de coordination de sauvetage de rechercher les corps, de les identifier et d'engager des procédures pour rétablir les responsabilités en cas de non-assistance.
9 février 2020, 9h47. Nous n'avons toujours pas réussi à rétablir un contact avec le bateau en détresse au large des côtes libyennes. Les autorités en Europe et en Libye ne semblent pas mener de recherches actives pour secourir les 91 personnes. Les laisseraient-elles se noyer ?
Depuis le 9 février 2020, les familles et les amis des 91 personnes qui se trouvaient à bord du bateau pneumatique contactent Alarmphone presque chaque semaine pour demander des nouvelles de leurs proches.
10 février 2020, 5h51. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé aux 91 personnes en détresse qui ont appelé Alarmphone hier. Ont-elles été secourues, interceptées? Ont-elles perdu la vie? Nous espérons que tout va pour le mieux, mais nous avons perdu contact avec elles depuis 36 heures et depuis, Nous n'arrivons plus à les joindre.
Depuis le 9 février 2020, Alarmphone, ainsi que les familles et les amis des 91 personnes qui se trouvaient à bord du bateau pneumatique, ont également contacté les autorités maltaises et italiennes, ainsi que des organisations internationales, pour exiger des réponses sur ce qui est arrivé ce jour-là. Depuis le 9 février 2020, la seule réponse obtenue a été le silence.
19 mars 2020, 9h06. Nous sommes solidaires des familles et des amis des disparus. Nous continuerons d'être à leur côté pour faire reconnaître aux autorités leurs responsabilités dans ces crimes. Nous continuerons de lutter contre les politiques racistes qui considèrent que certaines vies ne méritent ni deuil, ni respect.
Moudatar Ali Alzen Estik.
Cultiver la terre.
Jouer aux cartes.
Jamal Babikar Doda.
Faire des blagues.
Amma.
Être recherché.
Mohamed Aboud Bahar Al-Din Wadi.
Anel Ahmed.
Avoir peur.
Ismaël Idriss Adam Abakar.
Bien.
Mohamed Abdelkarim Adam Bakar.
Mohamed Suleymad Yakoub.
Avoir des gros muscles.
Avoir un ongle incarné.
Haroun Hassan Katal.
Toucher ses pieds.
Malheureusement, ce qui est arrivé le 9 février 2020 n'est ni un cas isolé, ni une histoire qui appartient au passé. Aujourd'hui encore, des personnes meurent au quotidien dans la Méditerranée. La vie de toutes ces personnes qui partent avec l'espoir d'un futur meilleur est entre les mains de politiques européennes. Si la loi maritime dit que chaque personne en détresse en mer doit être secourue et emmenée dans un port sûr, en pratique, les États européens mettent en place des instruments visant à empêcher ces personnes d'arriver sur leur territoire, quitte à les tuer. La mer et les océans sont divisés en zones de recherche et de secours, les zones SAR, pour Search and Rescue Zone en anglais. Qu'est-ce que c'est que ces zones SAR ? On peut se les représenter comme des traits dans la mer, comme des frontières dans l'eau, qui sont tirées à la règle et qui définissent des zones. C'est la convention SAR qui délimite ces zones dans les mers et les océans et les place sous la responsabilité d'un État. Chaque État signataire de cette convention, ensuite déclaré et reconnu compétent sur une zone SAR, et responsable du secours et de la recherche dans ces zones. Donc ils doivent mettre en place un ou plusieurs centres de secours, qu'on appelle les MRCC, Maritime Coordination Center. Donc ces centres reçoivent l'ensemble des signaux de détresse émis dans sa zone, les appels des navires qui repèrent également des personnes en détresse. Ils doivent ensuite mettre en place les moyens financiers et humains pour rendre possibles les secours et les recherches en cas de naufrage. Donc, à l'intérieur de ces zones, les États sont responsables de la coordination et de la tenue des sauvetages en mer. En Méditerranée centrale, on va avoir la zone SAR italienne, la zone SAR maltaise, une zone SAR tunisienne qui est assez restreinte, et depuis 2017, une zone SAR libyenne. Cette zone a été créée comme un instrument de contrôle des frontières, et non pas comme un instrument de secours. C'est un instrument meurtrier, financé par l'Union européenne à hauteur de 8 millions d'euros. Donc avant 2017, dès qu'un bateau avait dépassé les eaux territoriales libyennes, donc soit une vingtaine de kilomètres après la côte, les autorités italiennes et maltaises devenaient responsables de les secourir. Il faut maintenant parcourir près de 200 kilomètres pour avoir une chance d'être secouru par les autorités européennes. Malheureusement, comme dans le cas du 9 février 2019, beaucoup de bateaux se retrouvent en détresse alors qu'ils sont encore dans la zone SAR libyenne. Les autorités italiennes et maltaises se déresponsabilisent alors du sauvetage de ces personnes. Quand dans ces cas-là, nous, en tant qu'alarmphone, nous alertons les gardes-côtes italiens ou maltais, quand ils décrochent le téléphone, ce qui est de plus en plus rare, les gardes-côtes nous répondent invariablement « il faut que vous contactiez les autorités compétentes ». Ils entendent donc par là les autorités libyennes. Évidemment, ceci est très problématique pour plusieurs raisons. D'abord parce que les soi-disant gardes-côtes libyens ne répondent quasiment jamais aux appels de détresse, laissant les personnes mourir dans l'indifférence totale.
En plus, ces soi-disant gardes-côtes ont été reconnus pour la plupart faisant partie de milices armées. Les attaques armées sur les bateaux en détresse sont donc monnaie courante. Et quand un bateau est secouru, les personnes qui ont fui ce pays en proie à une guerre civile se retrouvent en prison dans les conditions qu'on connaît, où ils subissent entre autres des tortures. La Libye n'offre aucun port sûr et les soi-disant gardes-côtes libyens, formés et financés par l'Europe, sont inadaptés à leur mission, donc aux missions de sauvetage qu'ils sont censés mener. En 2020, Alarmphone a signé une lettre ouverte demandant à l'OIM, donc l'Organisation Internationale pour l'Immigration, de révoquer la zone SAR libyenne. Tant qu'elle existera, des centaines d'hommes et de femmes continueront de mourir sous nos yeux, en toute légalité.
Personnes ont disparu le 9 février 2020. 91 personnes auxquelles nous avons voulu rendre hommage en disant leur nom. Mais nous ne connaissons pas le nom de 29 d'entre elles. À la place, nous leur avons prêté une chose qui les rendait spéciales aux yeux de leurs proches. Nous pensons à elles et eux, avec tristesse et rage.
Voilà, Chronique Amère, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette chronique sur le site d'Alarmphone et sur les sites des radios associatives Jet FM et Radio Galère. Et puis vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées de la frontière méditerranéenne, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le 8 mars prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. On y parlera des femmes et des personnes LGBTQI qui traversent la frontière. D'ici là, portez-vous bien, main sur le cœur et poing levé.
F comme facho.
R comme raclure.
O comme ordure.
N comme nazi.
T comme tyran.
E comme ennemi.
X comme xénophobe.
Bras, zéro Frontex.
Les voix en cage.
Les voix des centres de rétention administrative.
Les voix des CRAS.
Les voix en cage, ce sont celles de personnes qui ont été enfermées dans des centres de rétention administrative. Ce sont des étrangers qui nous racontent leurs histoires, celles qui les ont fait arriver dans ces prisons destinées à les garder enfermés, jusqu'à ce que les autorités les renvoient de force hors de France. Ils nous racontent aussi leurs conditions de vie, ou plutôt de survie dans les CRA. Nous sommes un collectif qui souhaite diffuser ces voix pour rendre audibles des réalités invisibles, pour offrir une écoute à ces personnes et qu'elles soient entendues par d'autres. Nous souhaitons garder ces voix anonymes pour plus de sécurité. Et si ces témoignages peuvent être relayés et que les conditions inhumaines des CRA peuvent être dénoncées, alors cette radio aura permis d'être ensemble. Faisons résonner ces histoires individuelles souvent trash et grattons le plaqué or de l'histoire officielle.
Bah écoutez, c'est une menace. Un jour ou l'autre, ils auront mon regard en face de leurs yeux. Il faudra qu'un jour ils affrontent le regard de l'ensemble des mutilés.
Suite à une plainte le mois dernier pour diffamation et injure déposée par l'administration pénitentiaire contre le journal L'Envolé, qui diffuse les paroles des prisonniers et prisonnières, nous avons décidé d'éclaircir une logique largement reprise par l'État et les médias dominants, sur le fait que toute parole sortant des prisons serait un abus ou un mensonge, que les violences vécues par les détenus n'existeraient pas, que les paroles des surveillants et surveillantes seraient plus fiables que celles des détenus eux-mêmes. Et pourtant, en France, au sein des lieux de privation de liberté, il y a un mort tous les 3 jours. Quand on pense que les surveillants et surveillantes, ainsi que l'État, sont là en tant que responsables des personnes détenues, il nous semblerait logique que cela soit à minima une non-assistance à personne en danger, quand cela n'est pas un meurtre. Quand une personne enfermée met fin à ses jours, c'est bien la prison qui la tue. Le choc de l'enfermement, les punitions ou l'intimidation plongent les détenus dans le désespoir. Depuis que les voix en cage existent, nous avons été sidérés par la violence exprimée par les détenus, des médicaments introduits dans la nourriture pour calmer les révoltes, des tabassages hors champ des caméras, des attouchements et toutes les tortures psychologiques comme le non-accès aux soins, la non-considération du risque de contamination lié au Covid, les humiliations, la peur de se retrouver en isolement. Tout est mis en place pour que les personnes détenues n'aient plus aucune valeur propre, aucune possibilité d'exister. Une des sensations très souvent exprimées est qu'ils nous traitent comme des animaux. C'est une des logiques de l'enfermement, que de placer des détenus dans un dispositif où ils et elles sont constamment surveillés, sans en retour pouvoir voir ou écouter les personnes qui les surveillent. Faire intégrer aux détenus qu'ils et elles ne sont en sécurité nulle part, que toute visibilité peut être un piège potentiel pour elles et eux. Dans ces conditions, comment est-il possible de garder une certaine raison, de cultiver une forme d'autonomie intellectuelle ? C'est peut-être là que la toute-puissance du système se décharge, que les corps n'étant pas dans la norme sont torturés. Entendre qu'une personne ne se sent plus humaine, due au simple fait qu'elle ne rentre pas dans la norme dominante, par son corps racisé, sa sexualité, ses capacités ou son rapport au monde, est une grave atteinte à nos intelligences, car cela nous pousse à intégrer qu'il n'y a qu'une manière d'être. Ces lieux d'enfermement sont des endroits où l'État discipline les corps à rentrer dans la norme. Les mots nous manquent pour exprimer l'injustice que fabriquent ces lieux de privation de liberté et tous les efforts mis en place pour censurer et discipliner de force les personnes enfermées.
M'a repris ici au centre, il m'a dit qu'on va t'envoyer au bled. De quelle raison, c'est juste pour la carte de séjour, il était périmé. Au plus, moi, j'ai la famille, 3 enfants, la femme, je travaille. Ça, parce que ça, c'est des choses, normalement, ils n'ont pas le droit. Moi, ma famille, ils sont. Est-ce que vous connaissez Corsica, oui, vous le connaissez?
Ouais, je
vous, voilà, moi, j'ai laissé 3 enfants là-bas. Moi, quand j'ai passé le prison, je l'ai passé là-bas. Après, quand est arrivée la date de sortir de prison, j'ai trouvé la PAF devant le prisonnier qui m'attend à moi. J'ai dit, regardez, parce que moi, je suis marié, j'ai l'acte de mariage, j'ai 3 enfants. Ça, j'ai présenté tout. Il m'a dit, la préfecture, elle a refusé de quitter le trottoir français. Mais de quelle raison? C'est juste la carte de séjour, elle était périmée à moi. Au plus, moi, j'avais le rendez-vous à la préfecture et il était annulé à cause du Covid. Et la préfecture, il m'a dit qu'il faut quitter la France à cause de bêtises que j'ai fait. C'est une petite bêtise. Bon, 6 mois de prison. C'est pas un criminel. Et après, moi, je cherche un avocat dehors et il vaut pas que je cherche un avocat. Et c'est les gens qui vivent ici dedans. On mange pas bien. Et plus ils nous donnent à manger, c'est un produit exprès. Et nous, on n'a pas de la force.
Tu penses que dans la nourriture, ils mettent des sortes de médicaments?
De médicaments, exactement. Parce que c'est pour ça. Il ne faut pas qu'on rentre la cantine ici. Comme ça, on ne mange pas bien. Mais c'est obligé que c'est eux qui nous donnent à manger. Il y a beaucoup de choses. C'est pas bien. Puis le ménage, c'est pas fait bien. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'étais au présent, c'était mieux d'ici.
Donc là, tu dis que ça fait combien de temps que tu es dans le CRA, là?
Ici, ça fait 56 jours. Oui, 56. Après, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé n'importe quoi ici. J'ai dit, c'est bon, j'ai dit, moi, je vais partir au bled, c'est bon. Après, la première fois, j'ai fait le test. Je suis parti jusqu'à Marseille, j'ai fait le test, ils sont venus ici. Après, ils ont dit, vendredi, vous avez l'avion. Quand je suis parti avec eux jusqu'ici à la porte, ils ont trouvé l'avion, il était annulé. Ils sont pas partis. Et j'ai resté ici. Ils sont venus la deuxième fois, pour le test, j'ai refusé. La troisième fois, ils sont venus encore, j'ai refusé, et là, j'attends jusqu'à... Parce que moi, j'ai ici maintenant exactement 56 jours. Il me reste 3 jours pour 60 jours, parce qu'ici, à chaque 28 jours, on passe devant le juge. Voilà.
Panama, 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 Panama.
Du coup, tu dis qu'à un moment où personne s'y attendait, la police est arrivée et ouais. Ils ont pris Jamel et ils l'ont emmené. Et toi, t'as pas de nouvelles depuis.
Ouais, t'as des trucs. Hein. Parce que lui, il avait fait un test, tu vois. Il a fait un test pour le Covid. Et après, comment dire, si tu vas faire le test de Covid, après 48 heures, après 2 jours, il vient, il t'amène pour l'avion, tu vois. Lui, il m'a dit d'aller faire le test. Ils allaient annuler l'avion, tu vois. Mais après, à la fin, s'ils vont lâcher lui, je ne pensais pas de cette façon, tu vois. Quand quelqu'un qui est libéré, lui, il dit, ici, au micro, il parle. Monsieur, par exemple, au Cap de Jamel, vous êtes libéré, tu vois. Nous, pas tous, mais lui, je pense qu'il n'était pas libéré, tu vois.
Est-ce que tu peux me redire comment ça s'est passé le moment où ils sont venus le chercher?
Oui, le moment, il était le matin, vers 7h, tu vois. Vers 7h, ils sont demandés pour nous, on doit monter pour le petit déjeuner, tu vois. On est en train de marcher, et après, 5 des policiers civils, ils sont descendus. Ils sont demandés, il est où, Kabir Jamel? Lui, il a dit, c'est moi. Il a dit, c'est vous, président, on voudrait parler avec toi 2 minutes, comme ça. Après, lui, il est parti. Nous, on a mangé, on a attendu à lui, maintenant on va venir, maintenant. Après, on a fini le petit déjeuner, lui, il n'était pas là, tu vois. Comment je descends, je vais partir chez sa chambre, tu vois. Et donc, ses vêtements, ce machin, il n'y a aucun chose là-bas, mais sa chambre, il a du bordel là-bas, tu vois. Je pense qu'il a, galéré avec où, tu vois, pour ramener lui à l'avion, tu vois. Car lui, il avait un enfant ici, il avait un jour avant que l'on puisse pousser lui, il a demandé est-ce que j'ai le droit pour annuler l'avion. Ah ouais, vous avez le droit pour annuler l'avion, machin, tu vois. Mais après, je ne comprends pas exactement qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui ne sont pas normales, tu vois. Ils traitent nous comme des animaux ici, tu vois. Même peut-être les animaux, ils ont des droits plus connus, tu vois. Qu'est-ce qu'on, où ils font, quand tu vas parler avec eux, tu vas, comment dire, quand tu vas parler avec un merci, tu vois, ou tu vas chercher pour toi des problèmes extra, tu vois. Mais il y en a des choses que, on a le droit pour parler quand même, nous sommes dans un pays qu'il existe les droits des hommes, mais je vois, les droits des hommes, c'est seulement un titre, si tu vois. Voilà, je te dis, on sait rester. Moi, j'ai maintenant moralement, physiquement, j'ai toujours souhaité. Je suis vraiment faible, même très faible, tu vois. Ah, on n'a fait rien, tu vois. Et quand même, un petit peu, après, on a fait le présent, le plaisir, après, on dit bien ici. Ah, je te le dis, j'ai émigré, tu sais pas comment on est en train de souffrir ici, tu vois.
Yesai, l'Occident n'est pas un Eldorado.
Alors, quelques actualités de ce qui se passe un peu dans les CRA ces derniers temps. Donc, les centres de rétention sont encore très remplis. La tension est très forte dans beaucoup d'endroits avec la circulation du virus. Ce mois de janvier, il y a eu des grosses révoltes. Vous avez peut-être pu le voir. On tente de soutenir de plein de manières. Il y a eu différents clusters en janvier. Apparemment, depuis quelques jours, il paraît que certains policiers ne peuvent plus sortir de certains CRA. Ils seraient consignés comme des cas contacts, d'autres interviendraient en combinaison de protection. On peut lire aussi qu'il y a des retenus malades qui souhaiteraient hospitaliser mais qui le sont pas malgré leurs demandes. Voilà, donc en fait, suite au refus de test pour éviter les expulsions notamment, de nombreux détenus soient condamnés à des peines de prison ferme, là ça devient assez systématique. Ils doivent ensuite retourner en détention pour être expulsés. Par exemple, encore à Rouen, cette semaine, il y a un refus de test qui a engendré deux mois ferme pour éviter d'être envoyé vers la Russie. C'est un cercle vicieux. Les détenus sont parfois pris depuis très longtemps, en fait. Il est donc de plus en plus fréquent qu'une personne qui a passé 90 jours en rétention, donc le délai maximum légal, en fait passe en garde à vue et soit condamné à une nouvelle mesure d'éloignement et du coup revient en centre de rétention. Donc voilà, dans le CRA du Ménil-Amelot, il y a des prisonniers qui sont actuellement en train de redoubler en fait leurs 90 jours. Jusqu'à 6 mois enfermés pour ne pas avoir les bons papiers. Voilà. Donc pour lutter contre cette situation, ça a chauffé mercredi 20 janvier. Les retenus du CRA 3 du Ménil-Amelot se sont révoltés. Il y a deux bâtiments qui ont cramé. Voilà, les flics ont dû appeler les renforts. Certains prisonniers ont été hospitalisés et une dizaine d'autres ont été interpellés. Au total, il y a 44 places en cellule qui sont aujourd'hui inutilisables. Du coup, on dit gros bravo, gros soutien. On a l'impression que c'est une des seules manières de faire reculer la machine. Dans la foulée, il y a eu aussi des révoltes qui se sont réveillées au CRA de Vincennes le même jour. Voilà, toutes ces révoltes, bien sûr, amènent aussi la répression de la part des flics et de l'État. Donc au Ménil, suite à l'incendie, il y a 6 personnes qui sont aujourd'hui en détention provisoire. Une personne sous contrôle judiciaire en attente d'un procès qui aura lieu le 5 mars. Du coup, ces 7 personnes comparaîtront pour rébellion en réunion, dont 4 aussi pour destruction d'un bien par incendie, une substance explosive ou un moyen de nature à créer un danger pour les personnes. Voilà. Et du côté du CRA de Vincennes, les visites sont a priori encore interdites pour les prisonniers du bâtiment 1. Dans les médias, on voit encore la direction du CRA du Ménil, Amelot, qui continue à mentir en fait en affirmant que la crise sanitaire n'a pas de conséquences néfastes sur l'enfermement des personnes. On a en permanence des témoignages qui expliquent le contraire pour plein de raisons. Donc cette direction, elle affirme soi-disant que le refus de test PCR peut être condamné par la loi. Alors qu'en fait, les avocats se battent encore pour démontrer que c'est pas si légal que ça. Il y a eu un rassemblement le dimanche 7 pour soutenir ces révoltes à Paris. Donc voilà, pour renforcer la lutte qui peut pas s'éteindre tant que les CRA ne fermeront pas tous. Et il y aura probablement des appels pour aller au tribunal lors du procès du 5 mars. Pour ne laisser personne face à la justice seule, quoi. La dernière semaine de janvier, il y a eu 12 nouvelles personnes qui ont été testées positives au CRA de Vincennes. On n'a pas trop de nouvelles depuis. Elles ont été emmenées à l'extérieur du centre. C'est le plus gros cluster dans le centre de Vincennes depuis la pandémie. Voilà, du coup, à suivre, on espère que ça va mieux là-bas. Il y a eu un rassemblement, je voulais vous dire aussi, à Lyon, le 30 janvier à 10h, place Bellecour, pour exiger l'arrêt de la construction du nouveau CRA à Saint-Exupéry sur un gros terrain de Vinci qui va recevoir un loyer énorme de l'État pour accueillir un nouveau CRA. Du coup, la lutte continue bien à Lyon et ça fait plaisir de voir qu'il y a des mobilisations. Voilà, au CRA de Bordeaux, il y a une sénatrice qui a fait une visite cette semaine. Du coup, voilà, on continue à le mentionner parce que pour nous, c'est pas que ça fait bouger les choses, c'est plutôt que ça montre en fait les scléroses dans lesquelles l'État il est, c'est-à-dire qu'il envoie des politiciens constater, dire plus ou moins c'est scandaleux, plus ou moins on va ajuster le degré d'humanité dans ces prisons. Mais en fait, rien ne se passe et c'est des sortes de considérations médiatiques comme ça, mais qui en fait concrètement pour les détenus n'avance absolument rien. Sinon on peut remarquer qu'un local de rétention administrative dans le même ordre de mesure, un local de 12 places à Choisy-le-Roi a été temporairement fermé cette semaine suite à un recours juridique. Le tribunal administratif a reconnu les conditions inhumaines. Par contre, bien sûr, la justice ne fait rien que négocier la manière de réprimer, car le centre va en fait tout simplement subir des travaux pour réouvrir au plus vite. Voilà, le fondement de la rétention et de l'expulsion comme mesure inhumaine n'est donc pas encore discuté, quoi. Au CRA de Coquel, il y a encore des personnes positives en ce moment, même si le pic de cluster, surtout de novembre, est bien retombé. On peut voir que la cellule d'isolement là-bas pour les personnes positives au Covid fait en fait 5 mètres carrés. Et ils n'ont pas accès aux toilettes sans faire des demandes aux matons, etc. Les dernières nouvelles du Crat de Rennes où il y a eu une tentative de suicide et une personne qui est tombée dans les pommes. Ça va pas fort là-haut, il y a 35 personnes dans le Crat. Voilà, on vous invite à les appeler. Et ensuite, enfin, une histoire assez emblématique là ces derniers temps de l'acharnement judiciaire, c'est celle de Madame B, détenue au Ménilablo. Elle subit en ce moment un harcèlement de la préfecture qui prévoit un renvoi vers la Tunisie le 14 février. Et la Tunisie, c'est ce pays où elle a été agressée, où elle a été violée. Et la préfecture semble du coup désormais lui proposer le choix de sa corde, en fait, en demandant le pays où elle souhaiterait être expulsée. Du coup, voilà, il y a des mobilisations pour que cet acharnement indigne et méprisant cesse. Vous pouvez lire tous les détails de cette histoire, de son histoire, sur le site de mars-info. Voilà, on peut toujours appeler dans les cabines, il y a toujours des personnes qui sont contentes de témoigner, de raconter, c'est déjà énorme de prendre ce temps d'écouter et de diffuser autour de nous les paroles des prisonniers, prisonnières. Voilà, relayer les infos sur les conditions d'enfermement, l'actualité de l'intérieur, passer aussi des messages d'une cabine à une autre. Toutes les infos et les conseils, si vous savez pas trop comment vous y prendre, vous pouvez tout trouver sur abalekra.noblogs.org. Voilà, on vous invite à diffuser un peu ces nouvelles-là pour faire face à cette réalité qui est vraiment, vraiment dure en ce moment dans les centres de rétention et qu'il faut pour nous considérer. On lâche rien, on continue à penser à elles et eux. À bientôt.